Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
On a toutes les unes les autres, à des soirées différentes, été malmenées, voire agressées, voire forcées par un garçon qui était dans ma classe.
Une étudiante de Sciences Po qui elle aussi a subi des violences sexuelles. Le hashtag Sciences Po dévoile de très nombreux témoignages, mais difficile pour la justice de réagir car très peu de plaintes sont déposées. C'est le dossier de ce journal. Bien moins désagréable que les PCR, les tests salivaires sont déployés à partir d'aujourd'hui. Ils seront avant tout destinés aux enfants dans les écoles. Dans ce journal, deux policiers mis en examen pour des violences contre le gilet jaune Jérôme Rodriguez qui avait perdu un œil. Marine Le Pen face à Gérald Darmanin. Débat ce soir sur France 2 avec en toile de fond la présidentielle. Et puis bichonnez vos batteries car elles sont mises à rude épreuve avec le froid.
Juste après ce journal, le mea culpa de Bruxelles et le plan européen pour monter en puissance sur la vaccination. La Chine à la conquête de l'espace, c'est le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand on dit que la parole se libère, ce n'est pas un vain mot. La vague touche maintenant Sciences Po, les différents instituts d'études politiques avec ce hashtag sur les réseaux sociaux, Sciences Po. Écoutez d'abord le témoignage de Léa, elle est étudiante à Bordeaux.
Le tout début de l'année, c'est l'intégration. On fait beaucoup de soirées. Et à ce moment-là, avec un groupe d'amis, on a toutes les unes les autres, à des soirées différentes, été malmenées, voire agressées, voire forcées par un garçon qui était dans ma classe à faire des actes sexuels ou diverses choses de ce genre. Ça a été très violent pour nous parce que, on arrivait dans l'euphorie un peu de la première année, de l'entrée dans les études supérieures et dans la vie d'adulte. Et on a été très vite confrontés à cette violence-là. On m'a très clairement dit, par des femmes qui étaient en troisième ou en quatrième année, fais attention dans les soirées, fais attention à l'intégration, fais attention au week-end d'inté. Le CRIT, qui est donc la compétition sportive inter-Sciences Po, je vous en parle même pas. Et là, de voir la quantité de témoignages autour de moi et de personnes que je connais qui ont vécu des choses similaires, ça me donne envie d'en parler. Je me dis qu'il faut que je rejoigne cet effort collectif de libération de la parole.
Voilà Léa qui a accepté de témoigner au micro de Stéphane Place à Bordeaux.
Et à qui on dit fais attention, comme si c'était à elle de faire attention à un témoignage. Parmi des milliers d'autres, des étudiantes dénoncent des violences sexistes et sexuelles. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Alors le problème, c'est que très peu de plaintes ont été déposées.
Oui, et c'est toute la difficulté pour la justice. Elle a besoin de signalements ou de plaintes pour pouvoir enquêter et éventuellement sanctionner ces agissements. Pour le moment, il n'y a qu'à Toulouse qu'une plainte a été déposée pour viol. C'était samedi dernier. Une étudiante qui aurait été victime d'un autre élève plus âgé. Et dès que le directeur de l'Institut d'études politiques de Toulouse, Olivier Brossard, l'a appris, il a épauler cette jeune fille qui, au départ, voulait rester anonyme.
Je lui ai aussi fait savoir que, de toute façon, j'allais déposer plainte, moi. Puisque la loi nous y oblige, en fait. Il faut savoir que l'article 40 du Code pénal nous oblige, nous, fonctionnaires, à signaler tout fait délictueux. Donc à partir de ce moment-là, elle était accompagnée. Et puis ça, voilà, progressivement, elle a cheminé. Et puis elle a fini par déposer une plainte.
Alors Gladys, très peu de victimes osent déposer plainte, d'où l'importance des signalements. Et comment ça se passe dans les autres instituts d'études politiques?
Alors à Strasbourg, il y a eu un signalement qui a été fait par la direction à la justice, c'était la semaine dernière, pour des faits qui se seraient passés entre étudiants en 2019 et pour lesquels la victime n'avait pas non plus souhaité porter plainte. Autre IEP, à Grenoble, deux signalements au parquet ces dernières semaines, mais toujours aucune plainte déposée. Le procureur de la République, Éric Vaillant, convoquera les deux jeunes femmes pour les entendre et leur proposer de déposer plainte, car pour lui, c'est essentiel. Écoutez-le.
En tant que procureur, moi, je me réjouis plutôt donc de ces campagnes sur les réseaux sociaux quand elles sont pour une noble cause. Ça permet à tout le monde donc d'être touché. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Après, il faut qu'il y ait des enquêtes pénales, il faut qu'il y ait des plaintes, il faut que les victimes, à un moment donné, déposent plainte. Sinon, on ne peut rien faire.
Alors à ce stade, dans d'autres villes qui pourraient être concernées, comme Bordeaux, Rennes ou Aix-en-Provence par exemple, aucune plainte n'a été enregistrée, aucune non plus à Sciences Po Paris, dont le directeur Frédéric Millon a démissionné il y a deux jours après l'affaire Duhamel.
Merci beaucoup Gladys Laffitte. On a bien entendu cette phrase, hein. Les victimes doivent déposer plainte, sinon on ne peut rien faire. Hein. C'est ce que disait le procureur et d'ailleurs la situation inquiète au plus haut niveau. Le gouvernement a convoqué hier soir une réunion avec tous les directeurs d'IEP en France.
7h05 sur Europe 1. Depuis le temps qu'on en parle, ils arrivent. Les tests salivaires, beaucoup moins pénibles que les PCR avec le fameux écouvillon, le goupillon au fond du nez.
Oui, cet après-midi, Jean Castex sera dans une école du 13e arrondissement de Paris avec Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran. parents. Ils lanceront l'expérimentation dans les établissements scolaires car ce sont bien les enfants dans les écoles qui seront les premiers concernés. Les précisions de Mathieu Charrier.
La Haute Autorité de Santé va donner ses recommandations concernant l'utilisation de ces tests salivaires ce matin. Mais sans attendre la publication de ces détails, notamment sur quels modèles seront homologués, les premiers tests seront déployés aujourd'hui dans certains hôpitaux parisiens, a expliqué Olivier Véran, tout en précisant que le public prioritaire reste les enfants dans les écoles. Objectif, identifier rapidement les cas positifs pour préserver justement ces écoles dont nous souhaitons, précise Olivier Véran, qu'elles puissent rester ouvertes le plus longtemps possible. Selon nos informations, les élèves de collège et lycée devraient aussi rapidement pouvoir en bénéficier. Ces tests, comme leur nom l'indique, se font donc avec un simple prélèvement de salive. Il n'est plus nécessaire d'insérer un écouvillon au fond du nez. Le prélèvement est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse. Pas question pour le moment de recourir aux autotests salivaires, dont les résultats sont quasi immédiats, mais jugés beaucoup trop aléatoires. Objectif d'ici mi-février, réaliser entre 200 et 300 000 tests salivaires chaque semaine.
Voilà, des tests salivaires qui devraient être largement utilisés dès la rentrée des congés scolaires. Côté chiffres, le nombre d'hospitalisations ainsi que les entrées en réanimation sont en légère baisse. Près de 2,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection du vaccin. Si en France, l'exécutif veut à tout prix éviter un reconfinement, en Allemagne, en revanche, les restrictions sont prolongées pour quasiment un mois jusqu'au 7 mars.
Et nous serons à Berlin dans le journal de 8h tout à l'heure. Vous vous souvenez sans doute de Jérôme Rodriguez, cette figure des gilets jaunes qui avait perdu un œil lors d'une manifestation parisienne en janvier 2019, il obtient une première victoire.
Et oui, deux policiers viennent en effet d'être mis en examen dans cette affaire. Guillaume Biais.
Il aura fallu 2 ans pour que l'enquête en arrive à ses poursuites. Un long travail de l'IGPN, la police des polices et des expertises pour amener le juge à identifier les deux policiers soupçonnés d'avoir blessé Jérôme Rodriguez et un autre manifestant au même moment. C'est dans une vidéo sur ses réseaux sociaux hier soir que le leader gilet jaune a annoncé et commenté ses mises en examen.
J'ai pu avoir accès au rapport de l'IGPN seulement, qui met en avant pas mal d'irrégularités de la part des policiers qui ont agi à ce moment-là sur le terrain, des gros manquements à la déontologie, des gros manquements au savoir-faire, à la formation. Mais l'information importante, c'est de savoir que les policiers sont mis en examen et que normalement, si tout se passe bien, il y aura jugement.
Un futur procès qui pourrait même se tenir devant une cour d'assises puisque le policier soupçonné de l'avoir blessé est poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation, un crime puni de 15 ans de réclusion.
Guillaume Biais.
18 départements de la moitié nord sont placés ce matin en vigilance orange à cause du froid, de la neige ou du verglas. Laurent Cabrol le disait encore, des températures glaciales ce matin.
Oui, ça met nos organismes à rude épreuve et pas seulement, les batteries de nos voitures aussi, comme le constatent les garagistes ces derniers jours. À Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, le reportage de Lionel Gougelot.
C'est une vieille voiture, une vieille batterie, avec le froid, elle n'a pas tenu le choc. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de batterie et je pense que ça doit être celle, elle a rendu l'âme.
Et Malika n'est pas la seule automobiliste à être venue changer sa batterie à plat dans ce centre Neurauto de Villeneuve-d'Ascq. À l'atelier, témoigne Khalid, c'est presque un travail à la chaîne.
Le contexte actuel avec le Covid, les personnes roulent moins avec leur véhicule. Donc du fait de laisser le véhicule sur place et de ne pas rouler, déjà ça baisse l'intensité de la batterie. Et avec les grosses variations de température, ça donne un coup à la batterie, ça les endommage. Et donc on doit changer énormément de batterie. Hier, on a dû fermer un peu plus tard que prévu parce qu'il y avait beaucoup de clients qui sont venus pour des batteries et pour ne pas les laisser en rade, on a fait les batteries.
Un froid polaire sans pitié pour les automobiles à l'entretien défaillant. D'où ce petit conseil supplémentaire d'Anthony Ferromillon, responsable du marché atelier. Pensez à bien vérifier régulièrement tous les niveaux.
C'est important de le faire parce que le moteur il est quand même soumis à certaines contraintes en hiver et il faut s'assurer que le niveau d'huile soit bon pour éviter justement de sursolliciter le moteur. Et il y a un liquide qu'il va falloir faire attention et où il faut être vigilant si on doit faire la pointe, c'est le liquide de refroidissement. Le liquide contient un antigel et il ne faut pas s'amuser à compléter avec de l'eau parce que comme quand on a des températures qui sont négatives, malheureusement on peut geler le liquide de refroidissement et ça a des conséquences sur le véhicule.
Et pour les pneumatiques, le choix le plus judicieux reste celui des pneus 4 saisons. Là aussi la demande est en augmentation. À Villeneuve-d'Ascq, Lionel Gougelot, Europe 1.
Voilà, on a bien noté. Attention à bien vérifier les niveaux et surtout le liquide de refroidissement. Amazon recrute, le géant américain annonce la création de 3000 emplois supplémentaires en France, des CDI à pourvoir à la fois dans les entrepôts mais aussi au siège du groupe. Le président d'Amazon Logistique France, Ronan Bollet, l'évoquait ce matin sur Europe 1 à 6h40.
Et des emplois que vous pouvez retrouver bien sûr sur la carte interactive de notre site dans le cadre de l'opération Europe 1 Solidaire. Nous sommes solidaires de la jeunesse qui vit une période particulière. Retrouvez cette carte interactive avec toutes ces offres d'emploi d'Amazon et d'autres bien sûr. 7h10 sur Europe 1. Dans un instant, on parle des 100 000 œuvres du Louvre qui viennent d'être transférées à Liévin, près de Lens. Mais d'abord, un duel très attendu. C'est ce soir sur France 2, Gérald Darmanin face à Marine Le Pen.
Oui, la présidente du RN apportera la contradiction au ministre de l'Intérieur au menu de grands sujets régaliens comme le séparatisme, l'immigration ou la sécurité. Un débat aux airs de galop d'essai avant la présidentielle de 2022. Aurélie Herbemont.
Gérald Darmanin et Marine Le Pen auront un point commun ce soir. Tous deux sont convaincus que les questions régaliennes seront au cœur de la campagne présidentielle. Alors chacun fourbit ses armes et aucun des deux n'a droit à l'erreur. L'enjeu pour Gérald Darmanin, montrer que les solutions d'extrême droite relèvent de l'escroquerie intellectuelle et que les réponses du chef de l'État sont à la hauteur. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'apparaître crédible et posée, histoire de faire oublier son débat raté face à Emmanuel Macron en 2017. On est sûr de nous sur les thématiques immigration et islamisme, se vante un proche de la candidate. Et si depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron joue à fond la carte du match retour, aujourd'hui un ministre s'alarme. Il n'y a pas qu'elle dans la vie, il ne faut pas l'installer en opposante numéro 1. À l'heure où des sondages montrent qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle n'est pas inconcevable, l'enjeu n'est effectivement plus tout à fait le même.
Un débat qui tombe à pic, c'est l'édito politique. Nicolas Bétou à 7h50, tout à l'heure sur Europe 1.
Et Marine Le Pen qui, selon un sondage IFOP fiducial publié ce matin, arrive à la deuxième place des personnalités qui feraient mieux qu'Emmanuel Macron si elles étaient au pouvoir. En tête, l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Sachez aussi que la présidente du RN comparaissait hier devant la justice avec Gilbert Collard pour avoir posté sur Internet des photos d'exactions de Daesh en 2015. Le parquet de Nanterre a requis 5000 euros d'amende, décision en mai.
Et si la crue de la Seine devenait catastrophique au point d'inonder les réserves du musée du Louvre et leurs trésors inestimables? C'est pour éviter ça que plus de 100 000 œuvres ont été transférées au nouveau centre de conservation de Liévin près de Lens.
Oui, des pièces archéologiques pour la plupart qui sont maintenant en lieu sûr. Une opération qui aura pris du temps, mais ça en valait la peine. Reportage à Liévin, Diane Chenouda.
En un an et au rythme de 4 semi-remorques par semaine, 100 000 œuvres stockées dans les sous-sols inondables du Louvre ont pu être acheminées jusqu'au centre ultramoderne des réserves de Liévin. Brice Mathieu, le directeur du centre.
L'immense majorité de nos très grands formats et des œuvres qu'on n'aurait pas pu remonter, quoi qu'il arrive, il y a quelques années, sont aujourd'hui en sécurité.
C'est le cas par exemple de ces 2000 sculptures romaines, désormais à l'abri dans cette immense réserve de 2000 mètres carrés. Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre, est soulagé.
Ça a été vraiment une urgence parce que vous voyez que ces sculptures, le marbre c'est très simple, c'est 2,5 tonnes au mètre cube, vous ne pouvez pas les déplacer comme ça. Donc là, ça a été une des priorités de sauver cette collection et de la porter ici.
Les œuvres sont bichonnées, restaurées s'il le faut et rangées chacune à leur place, comme ces 2000 figurines en terre cuite dont s'occupe Isabelle Asselin, conservatrice au département des antiquités grecques et romaines.
Le fait de les avoir préservées ici dans le centre, effectivement, fait que nous ne sommes plus inquiets par rapport à cette eau de la Seine que nous voyons de nos bureaux monter de plus en plus en ce moment. C'est vrai que c'est un soulagement.
Il reste encore 20% des collections en zone inondable à Paris, 20 000 objets, mais ceux-là pourront facilement être remontés aux étages en cas de crue.
Diane Chenouda à Liévin.
Le football. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Victoire 1-0 à Caen.
Oui, mais grosse inquiétude pour Neymar qui a quitté le terrain après un choc et souffre d'un adducteur. On connaîtra dans la journée la gravité de cette blessure, mais ça tombe mal à 5 jours du match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et puis on apprend ce matin la mort de Larry Flint, le roi du porno américain, fondateur du magazine Hustler, le concurrent de Playboy. Il avait 78 ans. Milos Forman lui avait consacré un film en 1996. L'un de ses derniers coups d'éclat, c'était en 2017. Il offrait 10 millions de dollars à quiconque fournirait une information permettant la destitution de Donald Trump.
Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le 1996, le film de Milos Forman. J'ai vu, j'avais 12 ans. Mais j'aurais pas dû le voir à 12 ans ce film. Merci Hélène Zelani. Il est 7h14 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À deux jours de la Saint-Valentin, les temps sont durs pour les célibataires. Les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, c'est le monde d'avant. Et s'il faut être rentré à 18h, c'est encore plus compliqué. Le romancier et philosophe Charles Pépin publie tout un travail sur le thème de la rencontre. Et il n'y a pas que la rencontre amoureuse. Les amis, les collègues, les proches, la rencontre, une philosophie. À 7h40, Charles Pépin, invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, un autre genre de rencontre. Dans un instant, Nicolas Barré, l'éclairage éco et Vincent Hervouet pour le regard international. Bon réveil à tous. 7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'Europe fait son mea culpa. Bruxelles, c'est un euphémisme, a mal anticipé la production de masse des vaccins, a reconnu la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, hier. Elle est en train de corriger le tir.
Oui, et c'est le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, qui est à la manœuvre pour relever le défi. Thierry Breton est un industriel, il sait parler aux acteurs de la filière, faire travailler ensemble les grands labos et leurs myriades de sous-traitants. Or, c'est cette coordination qui a manqué depuis le début de la pandémie. Augmenter la production, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. La chaîne de production est mondiale. Pour produire un vaccin, il faut par exemple 400 composants environ. Ça fait intervenir des sous-traitants qui se trouvent partout dans le monde et à chaque maillon de la chaîne, surtout lorsque la demande mondiale explose comme en ce moment, eh bien, il peut y avoir des goulots d'étranglement qui bloquent ou ralentissent la production.
400 composants pour fabriquer un vaccin.
Rendez-vous compte, oui.
Oui, quand on parle de logistique, il n'y a pas que la question des frigos. Il y a 400 composants. D'où la mise en place d'une task force pour résoudre ces difficultés.
Voilà, c'est ce dont est chargé précisément Thierry Breton depuis à peine une semaine. Ces fameux goulots d'étranglement, ça peut être aussi bien, par exemple, une pénurie de filtres indispensables à la production des sérums ou tel composant chimique. Alors aujourd'hui, cette task force gère les urgences pour accélérer les cadences de production, car jamais dans l'histoire, l'industrie pharmaceutique n'avait été confronté à une augmentation aussi rapide de la demande de vaccins. Fatalement, ça crée des tensions mondiales. Tout le monde se tourne en même temps vers les mêmes sous-traitants. Et lorsqu'ils ne se trouvent pas sur le sol européen, eh bien notre situation de dépendance devient criante.
En clair, on se rend compte que nous ne sommes pas souverains sur le plan sanitaire.
Non, c'est clair. Alors, il va falloir le devenir, surtout si on anticipe des pandémies à répétition et l'émergence de multiples variants. Le but que se fixe Bruxelles, c'est d'être autonome à un horizon de 18 mois. Thierry Breton a bon espoir d'y parvenir. On ne corrige pas en 3 jours des années de sous-investissement sur notre continent ou de délocalisation de la production de composants et d'ingrédients critiques en Asie. Il aura fallu cette pandémie pour assister à un réveil européen. La bonne nouvelle, c'est que la montée en puissance de la production s'organise. Il était temps.
Merci Nicolas Barré. 7h18 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Les Chinois à la conquête de l'espace. Ils ont mis hier une sonde en orbite autour de Mars.
Oui, Tianwen 1 a été lancée en juillet. Elle a parcouru 500 millions de kilomètres dans le vide. Elle a réussi sa première étape, la plus facile. Les Émirats Arabes Unis en ont fait autant avant-hier. Et une sonde américaine entrera en orbite dans la danse la semaine prochaine, en mai ou juin. Tianwen 1 fera un atterrissage, ou plutôt un amarcissage. Un robot de 200 kilos ira explorer la planète rouge. Ce n'est pas la route de la soie, c'est la route du surmoi. Si la Chine réussit, elle aura rattrapé son retard de 40 ans sur les Russes et les Américains. Elle sera l'une des 3 grandes puissances spatiales.
Elle veut être la première.
Toujours modeste, Xi Jinping dit l'une des 2 premières. Mais la Chine le veut à tout prix. Elle y a englouti une fortune. Elle le veut obstinément depuis des décennies. Les lanceurs, les satellites de toutes sortes, les premiers vols habités, les premiers robots envoyés sur la Lune. Et l'an prochain, le Palais Céleste, sa propre station spatiale. La Chine redevient l'Empire Céleste. Cette course aux étoiles stimule l'économie, encourage la recherche. Il paraît qu'un euro investi dans un programme spatial en rapporte 10 pour l'économie du pays. Le grand bond en avant est un bond en l'air.
Les Chinois rêvent à haute voix d'exploiter des métaux rares sur la Lune ou de stations de capteurs solaires qui flotteraient autour de la Terre.
Ça, c'est de la poudre aux yeux. Le comité central rêve peu. Il y a un précepte en Chine qui tient le haut, tient le bas. C'est pour ça qu'autrefois, aucun immeuble de Pékin ne pouvait s'élever au-dessus des toits de la cité interdite. La Chine rattrape son retard spatial pour tenir le haut. Parce que la puissance militaire implique un arsenal de guerre spatiale. Hier, Joe Biden a annoncé la création au Pentagone d'un groupe de travail pour élaborer une stratégie face à la Chine. Cette nuit, il a téléphoné à Xi Jinping, c'est le premier coup de fil. Il ne l'a pas félicité pour Tianwen 1 ou pour le Nouvel An chinois. Il s'est plaint de la répression à Hong Kong, des Ouïghours, des pratiques économiques injustes et coercitives et aussi du Covid. L'année du buffle commence fort.
Merci Vincent Hervouette, le regard international de Vincent Hervouette tous les matins sur Europe 1. Vincent, dites-moi, vous êtes attaché à l'étiquette, au port de la cravate par exemple, quand c'est de circonstance?
Ah mais j'en ai une dès 7h le matin.
Rawiri Waititi, c'est un député maori au Parlement néo-zélandais. Je voulais vous faire écouter cet extrait sonore de son discours à la tribune de ce Parlement. Il s'est battu et il a obtenu gain de cause. Le port de la cravate n'est pas obligatoire désormais au Parlement néo-zélandais. Écoutez Rawiri Waititi.
When decisions are made like this, as you can clearly see,
Pour de nombreux Néo-Zélandais, il s'agit d'une cravate. C'est une cravate pour mon peuple, c'est une cravate pour la misère, dit-il. Une cravate pour les raisons mêmes pour lesquelles nous sommes ici, pour nous battre pour nos droits. Ça ne fait pas partie de ma culture, la cravate, dit-il. Et ça oblige les indigènes à porter ce que je décris comme un nœud colonial. Le combat d'un député à l'autre bout du monde, je voulais vous le faire entendre, pour que le port de la cravate ne soit plus obligatoire en Nouvelle-Zélande. Il est 7h21.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Au Parlement néo-zélandais, après dans les bureaux en Nouvelle-Zélande, vous faites ce que vous voulez a priori. Vous êtes sur Europe 1, tout de suite, Raymond Domenech, limogé. Cravate ou pas, je ne sais plus. 7 matchs, 0 victoire, en tout cas à Nantes. Mais ce n'est pas qu'un entraîneur de plus. Le responsable, c'est Valdemar Kita, le président du club. L'édito sport de Virginie Fulpin, c'est dans un instant. 7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Raymond Domenech n'est déjà plus l'entraîneur du FC Nantes. Il a été limogé après un peu plus d'un mois seulement à son poste. Mais pour vous Virginie, le problème nantais n'est pas Raymond Domenech, c'est le président Valdemar Kita.
Mais il est fort ce Valdemar Kita. En un mois, il a réussi à faire passer Raymond Domenech de coupable idéal du football français à victime qu'on a envie de prendre dans ses bras pour lui dire que ça n'est pas sa faute. Jolie performance, hein. Domenech n'a absolument rien réussi à Nantes. Hein. 8 matchs, 4 nuls, 4 défaites, aucune victoire, aucun progrès dans le jeu, rien. Il laisse le FC Nantes à une piteuse 18e place du championnat. Ce serait facile d'ironiser sur ses qualités de coach, mais comment aurait-il pu en être autrement dans cette galère? La journée d'hier nous donne un bon aperçu de la façon dont le club est géré, ou plutôt pas géré. Les Canaries affrontaient le RC Lens en Coupe de France. Raymond Domenech n'était pas sur le banc à cause d'un test Covid positif, puis négatif. Même les tests en perdent la boussole. Hein. Quand les joueurs sont entrés sur le terrain, ils avaient déjà vu sur les réseaux sociaux que leur coach était viré. Mais ils n'avaient aucune confirmation officielle. Même l'entraîneur remplaçant du jour n'était pas au courant, à part par la presse. Idéal, hein, avant un match. Résultat, quelle surprise, les Nantais ont perdu. Mais franchement, c'est difficile d'imputer cette défaite à Raymond Domenech. C'est directement la défaite du président. Valdemar Kita a tenté un coup avec l'ancien sélectionneur des Bleus, un coup de plus, un coup dans l'eau, on s'en doutait un peu. Hein. Ça restera un camouflet pour Raymond Domenech et un épisode pathétique de plus dans le feuilleton d'une institution du foot français qui se délite sous nos yeux.
Antoine Kambouaré devrait être le nouvel entraîneur du FC Nantes.
Bon, on va lui souhaiter bon courage, hein, parce qu'il arrive dans un club où le président mange des entraîneurs au petit déjeuner. Hein. Antoine Kambouaré va être le 18e depuis que Valdemar Kita est au FC Nantes, le 4e de la saison. Quand vous comptez plus de coachs que de victoires dans une saison, c'est peut-être que le problème ne vient pas des entraîneurs successifs. Honnêtement, Valdemar Kita pourrait faire venir Pep Guardiola. Hein. Il trouverait le moyen de lui savonner la planche et de l'évincer en essayant de lui faire porter le chapeau d'un navire nantais en perdition. Ça devient urgent de se regarder dans le miroir, monsieur le président. Vous voyez le reflet, hein, là, en face de vous? Ben, il est là, le problème. Ou alors, il faut qu'il enfile un survêtement et qu'il aille lui-même sur le banc. Au point où en est le FC Nantes, Valdemar Kita serait le meilleur guide vers la Ligue 2. Donc, bon courage à Antoine Kambouaré. Bon courage aussi aux supporters nantais. Ils vont pouvoir ressortir leur boîte à musique pour rythmer les entraînements des Canaries. Le Kita Circus présente son nouveau numéro.
Le Kita Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes. Une 17e marionnette vient effectivement d'arriver au FC Nantes. La 17e en 13 ans.
Non mais ça va, ça va.
Les supporters du FC Nantes avec beaucoup d'humour, hein, cela dit, c'était le premier entraînement de Raymond Domenech.
Oui, et j'étais assez visionnaire, je crois qu'on peut le dire.
8 matchs après, toujours pas de victoire. Après vous disiez, il mange les entraîneurs au petit déjeuner. Antoine Kambouaré, il faut avoir une bonne mastication quand même. C'est un coriace.
Ah oui, c'est assez sûr, mais on peut quand même lui souhaiter bon courage. Parce qu'il y en a d'autres qui sont passés avant.
Cela dit, on aura l'occasion d'en reparler du coup. Merci Virginie Fulpin, c'est l'édito sport, 7h26 sur Europe 1. Et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une chronique pas piquée des hannetons. Et en plus de vous la proposer, nous allons revenir sur cette expression qui n'a pas vieilli, ou si peu.
Pas piquer des hannetons, c'est plutôt positif, hein. C'est quelque chose qui est de qualité. J'imagine qu'il y a un lien direct avec le coléoptère. Mais alors lequel?
Au XVIIe siècle, une autre expression du même genre fait son apparition. Quand un meuble est en parfait état, quand son bois est d'une qualité comparable à son état d'origine, c'est donc qu'il n'y a aucun petit trou à la surface. Il n'a donc pas été piqué par des vers. On dit alors qu'il n'est pas piqué des vers. À cette époque aussi, on disait piqué des vers pour désigner des vêtements qui étaient rongés par les insectes, donc mités. Le hanneton est surtout connu pour avoir fait des ravages aux récoltes aussi bien à l'âge adulte qu'à l'état de larve. D'ailleurs, petit conseil pratique au passage, pour éviter d'avoir trop d'hannetons dans votre jardin, binez et bêchez pour retourner la terre, vous ferez des heureux, notamment les merles et les grives. Sinon, utilisez vos insecticides préférés et empoisonnez-vous. Vous-même, le problème sera réglé.
Histoire et jardinage, c'est la culture tout ça.
Revenons à nos hannetons. Extrêmement voraces, si on les laisse faire, ils font des trous dans les plantes et se régalent de céréales. Dès lors, ce qui est pas piquer des hannetons est exempt de défaut. En allemand, pour quelque chose de parfait, on dit « c'est pas du carton ». En anglais, « there's no flies on you », il n'y a pas de mouches sur toi. C'est vrai que si on a plusieurs sur soi, il faut commencer à s'inquiéter.
À 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre sur Europe 1.
Oui, on réunit le novelliste de génie Stéphane Zweig, le cinéaste Jacques Demy et la réalisatrice Sofia Coppola. Vous demandez quel est leur point commun.
Quel est leur point commun?
Ils ont fait revivre Marie-Antoinette, chacun à leur manière et même avec des baskets.
16h-18h, historiquement vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et pour nous, c'est le froid qui pique, hein, puisque franchement, ce matin, je risque pas au plaisir de vous donner les températures en plein vent, parce que c'est vraiment ce que nous ressentons lorsque l'on est dehors. Hein. Moins 17 à Châteaudun, à Orléans et Nancy, moins 16 à Strasbourg, moins 14 à Chartres, moins 12 à Roissy, moins 11 à Orly, moins 10 à Deauville, Lille et en banlieue parisienne, moins 7 à Poitiers, moins 5 à Lyon, moins 3 à Cognac, et plus 2 à Bordeaux. Les températures deviennent positives ensuite dans l'extrême sud, vous l'avez compris. Donc il fait froid, c'est inutile de le dire. Vigilance grand froid dans de nombreux départements. Nombreux départements, dont les départements de l'Est. Et puis, un ressenti qui devient pénible, puisque dès demain encore, il sera présent chez nous. La neige arrive, oui, il neige maintenant, mais ce sont juste des petites chutes de neige qui vont concerner la Bretagne, avec du verglas, rien que ça, avec des pluies verglaçantes. Cette neige est là sur l'Orient et sur la pointe du Raz, et elle va gagner tous les départements bretons dans la matinée, avant de se prolonger, disons, sous forme de pluie, surtout, dans les régions du Sud, c'est-à-dire dans les régions qui bordent l'Atlantique. Car seules les régions qui bordent l'Atlantique seront concernées aujourd'hui par cette petite perturbation. Tout le reste de la France sera sous un soleil, un froid soleil, très froid.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Sophie Echen, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
On est dans une période où les hôpitaux sont un petit peu surchargés et donc bah forcément c'est des cibles qui sont privilégiées par les attaquants puisque bah le moyen de pression sera plus important.
Dernier hôpital visé par une cyberattaque, celui de Dax, paralysé depuis 2 jours. Comment expliquer la recrudescence de ces piratages? Comment procèdent les hackers? Et surtout, que faire face à cette menace? C'est le dossier de la rédaction. Dans ce journal, alors que l'épidémie de Covid semble se stabiliser, c'est la gastro qui réapparaît. Bientôt, un ticket resto pour les étudiants, c'est une proposition de loi d'une députée pour les aider à surmonter la crise. Et puis le récit choc du braquage de Kim Kardashian raconté par l'un des voleurs, ça ne passe pas du tout pour l'avocat des victimes de ce cas spectaculaire.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, son regard décalé sur l'actualité. Philosophie de la rencontre au temps du Covid avec le penseur, écrivain Charles Pépin, c'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. Le débat d'Armanin Le Pen ce soir sur France 2, un duel qui tombe à pic, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, l'ancien patron de la SNCF, Guillaume Pépi. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une autre épidémie à laquelle font face les hôpitaux français. Les cyberattaques, elles sont de plus en plus nombreuses dans une période où, en pleine course pour trouver un vaccin contre le Covid, la confidentialité est un enjeu majeur. Dernière victime en date, l'hôpital de Dax qui fonctionne au ralenti depuis lundi.
Des hackers ont pris le contrôle des serveurs. Résultat, impossible pour le personnel d'accéder aux mails ou de lire les dossiers numériques des patients. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour à tous.
Le cas de Dax n'est pas un cas isolé. En France, les hôpitaux sont de plus en plus visés par des cyberattaques.
Oui, et un chiffre qui dit tout, hein, il y a eu 6 fois plus d'attaques en 2020 que l'année précédente dans le milieu hospitalier. La première grosse alerte, vous vous en souvenez peut-être, c'était en novembre 2019 au CHU de Rouen, et ça a complètement basculé avec la crise du Covid, selon Thomas Rochia, chercheur pour le spécialiste de la cybersécurité McAfee.
Sur les hôpitaux, c'est bien souvent des attaques qui sont opportunistiques, notamment pas parce qu'on est dans une période de pandémie globale avec le Covid où les hôpitaux sont un petit peu surchargés. Et donc bah forcément, c'est des cibles qui sont privilégiées par les attaquants puisque bah le moyen de pression sera plus important.
Et pendant le premier confinement, les hôpitaux parisiens de la PHP ont été impactés. Depuis, les attaques sont de plus en plus fréquentes. Les hackers profitent en fait de la surcharge des hôpitaux pour exploiter les erreurs humaines.
Et alors Clément, que veulent ces hackers exactement?
Ce sont des cybercriminels très organisés qui déploient souvent la nuit ou le week-end ce qu'on appelle un rançongiciel. Alors pour vous donner une image, c'est comme si un cambrioleur rentrait chez vous en votre absence, changeait la serrure et n'acceptait de vous donner la clé qu'en échange d'une rançon. Et on parle en général de dizaines voire de centaines de milliers d'euros. Pour les hôpitaux, les conséquences sont très concrètes. Impossible de consulter les dossiers des patients, report d'opérations, voire dans les cas les plus graves, transfert de malades vers d'autres établissements. Le problème, selon Cyril Politi de la Fédération hospitalière de France, c'est que les hôpitaux n'ont pas toujours les moyens de lutter.
On est dans un espèce de jeu du chat et de la souris sur ces questions-là. On se protège et puis les hackers trouvent une nouvelle technologie, une nouvelle faille. Vous avez une nouvelle mise à jour d'un logiciel. Cette mise à jour, elle comporte une faille informatique. Vous ne le savez pas, même l'éditeur parfois ne le sait pas. Microsoft découvre parfois qu'il avait une faille dans son logiciel, mais la faille, elle a été exploitée par des hackers pendant des mois.
Et comment la France s'organise face à cette menace?
Alors nous avons une agence d'État pour ça, c'est l'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Elle emploie des centaines de spécialistes, parfois même d'anciens hackers. Une équipe a d'ailleurs été envoyée à Dax, l'intervention sera longue. Dans ce genre de cas, il faut 1 à 2 semaines pour reprendre la main sur les serveurs et plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour reconstruire tout le système informatique.
L'enquête de Clément Le Saffre, spécialiste des nouvelles technologies sur Europe 1.
Vous l'avez entendu, c'était très clair, un peu plus simple. C'est comme si un cambrioleur rentrait chez vous, en votre absence, il change la serrure et vous demande de payer pour pouvoir retourner chez vous. Merci Clément. 7h34 à la une, les premiers tests salivaires vont être déployés à partir d'aujourd'hui. À Paris d'abord, dans les hôpitaux de la capitale.
Ils seront ensuite généralisés dans les prochains jours avec un objectif de 200 à 300 000 tests par semaine. Mais outre l'épidémie de coronavirus, c'est la gastro qui fait son grand retour en France, et ce, malgré le port du masque et les gestes barrières, Anne Le Gall.
Oui, les chiffres du réseau Sentinelle montrent une légère hausse des cas de gastro-entérite depuis mi-janvier, notamment dans le Grand Est, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. Il y a aussi une légère augmentation des virus respiratoires et des rhumes. Nous restons bien en dessous des chiffres habituels de saison, mais cette légère augmentation d'activité, le docteur Jacques Battistoni, président de MG France, la constate aussi dans son cabinet du Calvados, et il ne l'attribue pas à un relâchement des gestes barrières.
Peut-être que c'est la période plus hivernale, plus froide qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'on a un petit peu plus d'infections saisonnières. De toute façon, dans un hiver habituel, il y a des moments calmes et des moments plus importants. Donc je pense qu'on a moins de cas de façon générale, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des petites variations saisonnières.
Et fait très étonnant, la grippe reste absente des consultations cette année. Une situation totalement inhabituelle, car sur les 5 dernières années, la période actuelle correspondait à un pic épidémique. Alors, durant les vacances, pas question de relâcher l'attention sur le masque, le lavage des mains et l'aération. Ces gestes valent contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe. Car pour cette dernière, la menace n'est pas encore totalement écartée. On a vu certaines années des épidémies de grippe démarrer en mars.
Anne Le Gall.
Un ticket resto spécial étudiant pour aider les jeunes à traverser la crise. C'est la proposition d'une députée Les Républicains.
Et pour Anne-Laure Blin, élue du Maine-et-Loire, le repas à 1 euro voulu par le gouvernement pour lutter contre la précarité étudiante n'est pas suffisant.
L'idée est très simple, c'est de se calquer sur le modèle existant pour les salariés, mais à destination des étudiants. L'étudiant achetant le ticket à un prix au tarif social étudiant, soit à 3,30 euros, et l'État met en complément le double, ce qui permet d'avoir un ticket d'une valeur de 6-7 euros. On assiste à une fermeture très fréquente des restaurants et des sites de restauration du Crous. Donc moi, ma proposition, c'est de permettre d'avoir un ticket restaurant pour que les étudiants puissent à la fois se rendre dans un supermarché, dans une supérette, pour pouvoir se restaurer, cuisiner chez eux et puis manger à un tarif accessible, convenablement chez eux.
Les propos recueillis par Nicolas Feldman.
Et je vous le rappelle, hashtag Europe 1 solidaire, toute cette semaine notre antenne se mobilise pour aider les jeunes. Tiens, plus de 24 000 offres d'emploi en ce moment sur notre plateforme interactive. J'insiste évidemment, cette carte à retrouver sur europe1.fr.
Il n'y aura pas de quatrième terminal à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le projet d'extension est abandonné, annonce ce matin Barbara Pompili chez nos confrères du Monde. La ministre de la Transition écologique dit attendre une nouvelle proposition plus cohérente avec ses objectifs de protection de l'environnement.
Plus de 4 ans après le braquage spectaculaire de Kim Kardashian à Paris, l'un des malfaiteurs mis en examen publie un livre dans lequel il raconte les coulisses de ce casse de l'intérieur.
Alors même que l'instruction n'est toujours pas terminée, et cela indigne l'autre victime de ce braquage, le veilleur de nuit de l'hôtel particulier où séjournait la star de la télé-réalité. L'un de ses avocats, maître Henri de Beauregard, vient d'obtenir en justice la saisie concernée des droits du livre.
Il n'est pas acceptable qu'on puisse laisser quelqu'un au dos et à la barbe de ses victimes, au dos et à la barbe de la justice, revendiquer publiquement une infraction qui, contrairement à la manière dont elle est parfois présentée, n'est pas une infraction, de Robin des Bois ou de Papy Braqueur, ce genre de termes qu'on entend, mais bien une infraction qui a été d'une violence inouïe pour notre client. Pour lui, admettre l'idée que celui qui revendique cela puisse parcourir les plateaux de télévision pour vendre un livre à des fins lucratives sur la base de ce qu'il lui a fait subir, c'est évidemment pas acceptable. Il y a une manière de vouloir faire du fric sur le dos des gens qu'on a traumatisés. Ça me paraît hautement problématique.
Les propos recueillis par Guillaume Bier. Et puis les Solidays font encore les frais de la crise sanitaire. Prévu cet été, le festival est annulé pour la deuxième année consécutive.
Merci Sophie Echen, il est 7h38 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On parle beaucoup de la dette nationale et on entend ce débat, hein, même certains qui se demandent s'il ne faudrait pas l'annuler. Mais à plus petite échelle, faut-il permettre aux PME de ne pas rembourser leurs prêts garantis par l'État? C'est la proposition de Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui est aujourd'hui à la tête du réseau Initiative France. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Dans un instant, si les restaurateurs nous manquent, si les terrasses nous manquent, ce sont aussi les rencontres qui manquent. Voir du monde, échanger, être surpris par une rencontre au hasard, ce sont les questions que pose le philosophe Charles Pépin, mon invité dans un tout petit instant. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ce matin, découvrez la nouvelle série Les experts Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi contre les variants.
A tout de suite, il est 7h39. 7h40 sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chameroy, la touche âme. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hier, en conseil métropolitain, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé, afin de lutter contre les variants du Covid, vouloir analyser les rejets des toilettes des avions qui atterrissent à Nice. Avec nous pour en parler ce matin, son directeur de cabinet.
Oh, attention, monsieur Béliard, non, pas de ça avec moi. Non, j'ai vu votre sourire en coin quand vous avez dit directeur de cabinet.
C'est pas faux.
Ça va, c'est bon, tout le monde a compris, n'allez pas sur ce terrain-là, hein. Mollo, lastico.
Christian Estrosi demande donc, je le cite, de pouvoir travailler sans délai et analyser sans attendre les rejets des WC des avions long courrier à leur atterrissage. Problème, l'aéroport de la ville l'a précisé actuellement, aucun long courrier ne décolle ou n'atterrit à Nice.
Oui, bon, il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup, mais il faut le comprendre, hein, d'habitude à cette période de l'année à Nice, c'est le carnaval. Normalement aujourd'hui, il aurait dû être sur un char avec Denis Fabre et Éric Ciotti et lancer des confettis. On s'était régalé l'an dernier, on avait mis Éric dans un costume de coquetier géant, c'était bluffant. Mais cette année, on a malheureusement été contraint d'annuler pour les raisons que vous connaissez. Donc bon, monsieur Estrosi s'occupe comme il peut, et puis il faut bien rentabiliser le kit du petit chimiste qui s'était acheté pour son déguisement.
Alors justement, revenons à cette histoire d'analyse.
Oui, eh bien, dès que le feu vert sera donné, nous lancerons cette vaste opération. Tout est prêt de notre côté. Christian trépigne, il s'est acheté de nouvelles lunettes de soleil. Là, il se prend pour le Horatio Caine de la Riviera. Après les experts Miami, les experts Manhattan et les experts CSI, découvrez les experts Extrosai, Nice-Côte d'Azur. Stop, personne ne bouge. Christian Estrosi, maire de Nice. Laissez-moi accéder au water, je souhaiterais en analyser les rejets. Pipette. Alors, qu'est-ce qu'on a, monsieur Estrosi? Les analyses sont formelles. Il s'agit d'une matière nauséabonde qui s'apparenterait à de... Oui, c'est de la merde. Tiens, et du sel de céleri, sans doute un amateur de jus de tomate. Encore une enquête rondement menée. Ah, je peux vous dire que ça va moins moufter du côté de l'opposition, cette bande de fouimères. Nous, de ce côté-là, on est dans l'action.
Vous êtes sûr que c'est la bonne méthode pour endiguer la pandémie?
Monsieur Béliard, je me permets simplement de vous rappeler que depuis le début de la crise, monsieur Estrosi est à la pointe de la lutte anti-Covid. C'est l'un des premiers à avoir testé et vanté les mérites de la chloroquine.
Oui, et en mars, il était en visite dans plusieurs EHPAD quelques heures avant d'être testé positif.
Ah bah, je l'attendais, ça là. Et alors, vous voulez quoi? Qu'il arrête de côtoyer les personnes âgées? Autant l'enfermer dans son bureau et lui interdire de marcher dans sa ville. Je vous rappelle qu'il est maire de Nice, hein, donc en termes de population, on est plus Vivolta que Gulli. Capillairement, on est très bleu. Donc bon, allez, c'est pas tout. Mais il faut que je lui trouve une occupation en attendant le retour des longs courriers. Hein, vivement, hein, parce que ça fait 3 jours qu'il est planté sur le tarmac de l'aéroport avec sa mallette du petit chimiste. Heureusement, il lui reste Instagram pour poster ses vidéos de jogging matinaux.
Merci Bertrand Chameroy. La touche âme tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Et à tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Entre les confinements et les couvre-feux, le télétravail et la distanciation sociale, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se rencontrer? Est-ce qu'on mesure l'importance de la rencontre, la solitude quand on s'en prive? Et la difficulté, il faut bien le dire, aussi pour les célibataires en ce moment. Mon invité publie « La rencontre, une philosophie » chez Alary Éditions, le philosophe et romancier Charles Pépin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Alors c'est vrai que j'insiste, à 2 jours de la Saint-Valentin, mais on ne parle pas que de la rencontre amoureuse ce matin, mais de la rencontre amicale, professionnelle. Je voudrais qu'on parte, pour démarrer, sur le terrain de l'étymologie, parce que l'étymologie nous en apprend souvent beaucoup. Exister, dites-vous, c'est sortir de soi, c'est donc aller vers l'autre.
C'est ça, c'est se jeter hors de soi, ex et hors d'eux. Et ça veut dire, si on suit l'étymologie, qu'une existence humaine, c'est une existence passée à aller hors de soi, rencontrer au fond ce qui n'est pas soi, mais c'est la seule condition, finalement, paradoxalement, pour devenir soi. Alors c'est vrai autant d'une rencontre amoureuse que d'une rencontre amicale ou d'une rencontre professionnelle. Il y a une phrase du poète René Char qui résume bien tout ça, c'est « si tu n'as pas l'audace d'aller t'établir à l'extérieur de toi, tu ne pourras pas devenir toi-même ».
Et j'ajoute, j'ajoute toujours sur l'étymologie, la rencontre, ça vient de encontre, aller à l'encontre.
Ouais, et il y a aussi contre, on entend bien. Ça veut dire qu'il y a un contact en fait avec l'altérité, quelque chose qui peut être un peu dérangeant, qui peut me troubler dans mes certitudes, qui peut faire que ma carapace identitaire comme ça se fissure. Donc c'est pas toujours très agréable, mais c'est pour ça qu'il va y avoir un bouleversement existentiel. Et c'est ça une vraie vie. Il y a un philosophe, Martin Buber, que j'évoque dans le livre, qui dit, un philosophe qu'on connaît pas très bien, mais qui a beaucoup influencé Sartre, Husserl, etc. Et il dit, la vraie vie est rencontre. C'est-à-dire au fond, une vraie vie, c'est pas simplement de se croiser, c'est pas simplement d'être accroché à son identité et de vouloir mener un petit bout de chemin parallèlement avec quelqu'un. C'est de se rencontrer, c'est-à-dire au fond, grâce à la rencontre de l'autre, de rencontrer des parts de soi qu'on ne soupçonnait pas.
Et vous écrivez, la rencontre, c'est heurter quelqu'un sur son chemin, je trouve ça très joli, oui. Mais c'est en filigrane une ode au hasard, votre livre finalement, la rencontre par hasard qui vaudrait presque mieux que les rendez-vous pris.
Alors oui, sauf qu'on ne peut pas complètement s'en remettre au hasard, parce que ce serait dommage de ne pas faire des choses pour rencontrer les gens. Et on ne peut pas non plus abolir le hasard comme parfois on veut le faire sur un site de rencontre quand on utilise un algorithme avec des critères trop précis.
Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous mettez l'algorithme dans ce débat sur le hasard ?
Le but, c'est d'arracher l'algorithme à sa logique de prévisibilité et de recréer les conditions d'une rencontre du hasard. En fait, tout ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on peut se rendre disponible et qu'on peut aller provoquer le hasard, chercher le hasard, titiller le hasard. Alors pour vous répondre, très concrètement, ça veut dire que par exemple, sur un site de rencontre, on ne met pas des critères trop précis, on ne renseigne pas son profil de manière trop exacte, on n'a pas d'attente trop précise et qu'on est capable, finalement, quand on sort de chez soi et qu'on part à la rencontre du monde, d'avoir une attitude relâchée par rapport à son attente initiale. C'est normal d'avoir une attente initiale.
De rester ouvert à toutes les possibilités, si je me suis bien.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle, au fond, la disponibilité. Mais pour être disponible à ce qui arrive, à ce qui surgit, à ce qui survient, encore faut-il ne pas trop penser qu'on sait ce qu'on veut, ne pas trop penser qu'on sait à quoi s'attendre. En fait, il n'y a de rencontre que de l'inattendu. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est comment on fait pour se mettre en état psychique et physique d'accueillir la surprise. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir tout prévoir, tout anticiper et tout rationaliser.
Vous convoquez Picasso et Éluard, Voltaire et Émilie du Châtelet ou encore David Bowie et Lou Reed. Et vous dites, une rencontre, c'est fertile.
Ouais, et je dis aussi une rencontre, parce que ça m'y fait penser d'écouter Bowie, ça se prépare. Et ça peut nous aider aujourd'hui quand on est un peu enfermé, confiné, entravé. Parce que lorsque Bowie a rencontré Lou Reed, une rencontre qui sera tellement fertile, comme vous le dites, puisqu'elle produira notamment l'album Transformer avec Perfect Day, Satellite of Love, Walk on the Wild Side. En fait, ça s'est pas hyper bien passé quand ils se sont rencontrés, parce que Lou Reed est quelqu'un d'un peu difficile, un peu ombrageux. Mais Bowie, ça faisait des années avant même de rencontrer Lou Reed physiquement, qu'il écoutait l'album du Velvet sur lequel Lou Reed chantait. Alors c'est juste un exemple pour montrer que s'il n'avait pas fait tout ça avant, la rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Et c'est ce qu'on peut se dire aujourd'hui si on souffre de voir nos rencontres entravées par le couvre-feu ou le confinement, le semi-confinement, c'est de se dire « Ok, là je ne peux pas vraiment sortir de chez moi autant que d'habitude, mais je peux nourrir mon intériorité, ouvrir ma sensibilité, lire d'autres livres, écouter d'autres musiques, changer mes habitudes culinaires ou sportives. » C'est-à-dire que ce mouvement de la rencontre, qui est un mouvement par lequel je vais hors de chez moi, je peux d'ores et déjà l'initier en sortant de moi-même, c'est-à-dire en gros en sortant de mes habitudes et de mes certitudes.
Toute cette semaine, Europe 1 s'engage pour la jeunesse avec le hashtag Europe 1 solidaire. Et hier matin, on entendait ce reportage dans les restos universitaires qui rouvrent et ce besoin de la jeunesse justement de se retrouver. Et vous dites vous-même finalement que se priver de rencontres, c'est le risque du repli sur soi.
Ouais, du
en particulier à cet âge-là, 18 ans, 20 ans, c'est là qu'on s'émancipe.
C'est extrêmement douloureux d'être privé de ça dans l'âge où on a le plus besoin en fait, de se développer. Et comment on fait pour se développer quand on est un animal humain ? On ne peut pas se développer tout seul. On est obligé de se développer au contact des autres et finalement de développer des qualités, des facultés, des émotions grâce au fait qu'on rencontre les autres. Donc la jeunesse est privée de ça. C'est extrêmement douloureux. Et c'est pas, si vous voulez, en étant privé de rencontres, cette jeunesse n'est pas privée de quelque chose qui serait simplement intéressant ou divertissement. Elle est privée de l'essentiel. Nous, les humains, en fait, notre vérité n'est pas en nous, mais elle est hors de nous dans les relations que nous tissons, dans les échanges, dans les vraies rencontres.
Et ça vaut, on parlait des étudiants, mais pas seulement. Hein. Imaginez les débuts dans la vie professionnelle en distanciel, quand vous ne rencontrez personne, pardonnez-moi pour la Ligue contre le cancer, mais quand il n'y a pas de pause clope, quand il n'y a pas la possibilité de bavarder avec des gens qu'on ne connaît pas dans l'immeuble.
Ouais, on est entravé en fait de l'essentiel. Et c'est ça qui est extrêmement dur. Alors après, on peut quand même envisager des stratégies pour mieux vivre la chose. Et notamment quand vous parlez des Zooms ou des rencontres à distance par écran, il y a quand même, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, couper le visio pour entendre la voix. La voix de quelqu'un, c'est très intime. On peut chatter en même temps sur l'écran. Donc voilà, on peut réinventer des manières de se rencontrer. D'ailleurs, on doit le faire, on n'a pas le choix. Mais c'est évidemment extrêmement douloureux d'être privé de ce qui fait le sel d'une vraie vie.
Et vous ne dites pas tant de mal que ça, hein, des sites de rencontres et des algorithmes. Non, mais parce qu'on est passé dessus un petit peu rapidement. C'est aussi une solution en attendant.
Évidemment. C'est-à-dire que tout dépend de l'attitude que je vais développer. Le site, l'appli de rencontre, tous ces chats, toutes ces messageries ne sont que des instruments. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a deux attitudes par rapport à ces instruments. Et il y a une belle attitude qui fait qu'on utilise cet instrument pour favoriser une rencontre, notamment en étant moins dans une image figée de soi, en se montrant plus vulnérable, en prenant plus le temps de discuter sincèrement. Et finalement, il y a beaucoup de rencontres qui auront lieu parce qu'on aura beaucoup, beaucoup chatté auparavant. On aura appris à se connaître. Encore faut-il pour ça savoir tomber le masque, être un peu plus authentique peut-être, et profiter de cette crise pour tomber le masque en fait. Alors pas le masque anti-Covid évidemment, mais le masque identitaire, vous voyez, cette espèce de masque figé que nous avons souvent en société et qui nous empêche de rencontrer les autres. Et finalement, moi j'ai commencé à écrire ce livre avant le premier confinement, et j'avais l'impression déjà qu'on ne se rencontrait pas assez.
Oui, parce que vous dites en société, mais même dans notre quotidien, il faut vous lire absolument, parce qu'on partage le quotidien de gens parfois depuis des années, on peut être surpris par des gens qu'on croit connaître par cœur. Réapprenons, re-rencontrons-nous. On va terminer en musique, si vous le voulez bien, Charles Pépin, puisque vous le citez, il nous a quittés il y a près d'un an, Christophe.
Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles.
Oui, ce couplet en particulier parce qu'à un moment on va se retrouver, hein, voilà, à défaut de pouvoir se rencontrer.
Exactement. Ou alors se re-rencontrer si on est déjà avec quelqu'un qu'on ne fait que croiser.
La rencontre, une philosophie. Charles Pépin chez Alary Édition. Merci beaucoup. Quelques instants de réflexion aussi sur les rencontres qu'on ne peut pas faire sur la Saint-Valentin dans deux jours. Je voyais qu'on proposait des rencontres dans les centres commerciaux. Je pense qu'il y a plus. On peut s'élever un peu plus. Lisez Charles Pépin. Merci beaucoup. Il est 7h51 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Gérald Darmanin face à Marine Le Pen. Un débat qui tombe à pic, nous dit Nicolas Bétou, l'édito politique, dans un tout petit instant. 7h53 sur Europe 1, l'édito politique, Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est un débat très attendu. Une rencontre, tiens.
Une autre.
Marine Le Pen affrontera ce soir Gérald Darmanin, ce sera dans l'émission. Vous avez la parole sur France 2.
Oui, c'est un débat qui tombe à pic pour chacun des deux protagonistes. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est l'occasion de valoriser la loi sur les séparatismes qui passe actuellement à l'Assemblée et de souligner le travail qu'il a effectué sur la question du terrorisme et de l'islamisme.
Il vient justement de publier un petit livre sur ce sujet.
Exactement. Et pour Marine Le Pen, ce sera l'occasion de revenir sur ses thèmes de prédilection, ceux sur lesquels elle a toujours fondé une grande partie de son offre politique. La sécurité, l'immigration et le séparatisme. En plus, depuis un an, on ne parle quasiment que du Covid, confinement, déconfinement, couvre-feu et variants. Et pour un leader politique, sortir de ces sujets imposés sur lesquels il est quand même très difficile de se différencier, eh bien, c'est une aubaine.
Et ça promet une discussion animée, parce que ce sont tous les deux, il faut le dire, des débatteurs assez vifs.
Qui peuvent vite se laisser emporter et devenir même agressifs. Ce sera leur défi à tous les deux. Le ministre de l'Intérieur aura une chance de lisser son image parfois un peu roquée. Et la présidente du Rassemblement National essaiera de travailler son statut de présidentiable.
À la fin de ce genre de débat, on cherche toujours un vainqueur. Est-ce que vous avez un pronostic, Nicolas ?
Alors, non, je note simplement que tous les deux sont très affûtés sur ces sujets. Cela dit, Gérald Darmanin aura un handicap, c'est celui du bilan. Il est au pouvoir. Et sur la sécurité, par exemple, on peut lui opposer les mauvaises statistiques de la délinquance. Sur le séparatisme, autre exemple, on pourra lui reprocher une forme de timidité de la loi qui a en tout cas empêché des débats, tenez sur le voile des petites filles ou sur les sorties scolaires. Mais il aura un avantage, être là, Je veux dire, être celui qui débat face à celle qui s'installe dans l'imaginaire des Français comme finaliste à l'élection présidentielle. Ça élève mécaniquement Gérald Darmanin, ça le place à un niveau politique qu'il cherche en permanence à atteindre.
Et pour Marine Le Pen ?
Ben, on l'a dit, ce sont ses sujets de prédilection, ceux sur lesquels elle n'a aucune nuance, sur lesquels elle peut taper dur parce qu'elle sait que beaucoup de Français sont sensibles à ses thèses. C'est sa force. Mais c'est aussi sa faiblesse, parce que, aussi haut soit-elle dans les sondages, ce n'est pas en étant toujours plus forte sur ses thèmes de prédilection qu'elle s'imposera, mais en essayant de progresser aussi sur les sujets qu'elle maîtrise mal, ou parfois pas du tout, l'économie, le social, la fiscalité, l'international. Et là, il va se passer du temps avant qu'elle n'accepte le débat.
Votre édito, c'est tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. 7h56 sur Europe 1, comme tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Guillaume Pépi, président d'Initiative France, ancien patron de la SNCF. Et notre ami syndicaliste, monsieur Régis, voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour à tout le wagon, monsieur Béliard, monsieur Bétou, monsieur Cabrol, et bonjour à Guillaume Pépi. Avec qui j'ai partagé de belles années. J'ai travaillé à ses côtés pendant 15 ans 15 ans, enfin travaillé. J'ai fait grève contre lui pendant 15 ans. À son contact, monsieur Béliard, j'ai tout appris. Quel pneu dégage le plus de fumée pour emmerder la direction? Quel train faut bloquer pour avoir une augmentation ou des congés payés? Alors aujourd'hui, je vais mettre mon savoir-faire au service de ses nouvelles missions.
Bon, aujourd'hui, Guillaume Pépi est président d'Initiative France, un réseau qui vient en aide aux entrepreneurs.
Voilà, on aide aux entrepreneurs. Chaque fois qu'il aidera à créer une entreprise, moi, ma mission, j'aiderai les salariés à créer un syndicat. Voilà. Et je donnerai personnellement des astuces pour embêter Guillaume Pépi et ses amis. Quoi, c'est pas parce qu'il est parti de la SNCF qu'il va se débarrasser de moi? Où tu iras, j'irai jusqu'à destination. Qu'est-ce qu'il croit? Oh la vedette!
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours. Ce matin, Guillaume Pépi, vous l'avez entendu au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Merci Nicolas, et à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presse.